Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présenté par Sylvie Rosier.
L'activisme écologique est un sujet de plus en plus présent sur la scène médiatique française et de plus en plus polarisant. En 2023, diverses actions de contestation contre des projets climaticides, tels que les méga-bassines de Sainte-Soline, par exemple, ont eu un grand retentissement médiatique. Leurs détracteurs ont attaqué ces mobilisations, le ministre de l'Intérieur allant jusqu'à parler d'éco-terrorisme. Agressions physiques et verbales, vandalisme de locaux associatifs, dégradation de lieux de vie et de véhicules. Ces dernières années, les violences contre des personnes engagées pour la défense de l'environnement se multiplient. Écoterrorisme, Khmer vert, de plus en plus de propos visent à discréditer, voire criminaliser, le comportement des associations de protection de l'environnement. Qui sont les auteurs des violences faites aux militants pour l'environnement ? Généralement des agriculteurs, parfois des chasseurs et des pêcheurs professionnels, agissant la plupart du temps à visage découvert et revendiquant leurs actions au nom d'organisations syndicales locales. Deux poids, deux mesures. À noter que c'est souvent celui qui dit qu'il est.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
La vallée du Rhône-Beaujolais en effervescence pour plusieurs semaines. Le paysage change de visage, le temps des récoltes des futurs breuvages qui font la richesse de sa région. Un arrêt à Thésée où Romain Debrun, jeune viticulteur, mène sa troupe de vendangeurs. Les deux pieds dans les vignes, la tête dans les cèpes et les mains dans les raisins.
Il faut mettre de la manœuvre et ça reste compliqué quand même en ce moment. Après là, c'est vrai que moi j'ai une troupe qui vient régulièrement pendant les vendanges. Ouais. Donc c'est que des personnes qui habitent dans le secteur qui sont
d'accord,
avec moi là. Donc Romain Debrun, et je suis viticulteur du coup depuis 2 ans.
Alors jeune viticulteur, j'ai l'impression.
C'est ça, oui. Donc j'ai arrêté, avant j'étais pompier professionnel à Lyon.
Une reconversion donc.
C'est ça, oui. Et du coup je reprends la suite de mon père. En restructurant les vignes, du coup mon père était planté en moyenne avec des rangs plantés à 1m30 et moi je suis planté à 2m. Et je suis passé en bio là depuis l'année dernière.
Et la différence entre le 1m30 et 2m?
C'est pour simplifier le travail. D'accord. Parce qu'en bio du coup on n'utilise pas de désherbant et du coup pour travailler les sols c'est beaucoup plus simple.
Et vous travaillez aussi pour Eudoria, c'est ça hein?
C'est ça, oui. Donc coopérateur depuis 2 ans. Exclusivement.
Exclusivement,
oui.
D'accord.
Bah, en crément, en bourgogne blanc, en beaujolais blanc aussi, oui.
D'accord,
bah,
là on va y aller je crois. Hein.
Oui.
Alors comment ça se passe au niveau de la vigne? Est-ce que ça a été une bataille caniculaire? On a eu des pluies en juillet
Ça a été contrasté du coup entre le début juillet où on a eu beaucoup d'eau. Et puis la canicule au mois d'août. Donc, et puis moi, c'est vrai que du coup, vu que je suis jeune viticulteur, j'ai que des jeunes vignes.
Oui.
Du coup, elles ont un peu souffert du sec. Mais avec les pluies qui sont tombées la semaine dernière, du coup, on peut s'attendre à une bonne récolte quand même.
Très bien. Le raisin est sain?
Oui,
cette année,
ouais, pas de maladie, ouais, surtout que je suis en bio. Donc, vous voyez, les raisins sont jaunis.
Ouais. Quelle est la particularité, effectivement, par rapport justement à ce travail de vigne pour du crément? Est-ce que c'est le même que pour le blanc? Ou il y a des particularités ou... Après, c'est plutôt le vinifié, c'est ça, c'est
une... Voilà, après la vinification, du coup, ça se passe après à la cave coopérative.
Ouais,
au niveau de travail de la vigne, après, on ne fait rien de plus qu'une vigne...
Voilà.
Traditionnel, ouais.
On rend des raisins parfaits, de qualité, sains, etc.
C'est ça, avec des rendements un peu plus élevés. Du coup, on a des plants qui sont faits pour faire du crément.
Mm-hmm,
donc voilà, et là, ici, là, c'est des plants qui sont en pinot noir.
À la main ou à la serpette?
Oui, mais quand même,
à la main, avec le sécateur.
Voilà.
Impossible sur le cahier des charges.
Il faut que ce soit dans des bennes percées. Ou des
pour la respiration, c'est ça?
Ah, c'est pour pas que les jus stagnent du coup dans le contenant. Ouais.
On va aller voir peut-être c'est les saisonniers.
Il y a mon papa qui est là.
Papa, il doit être fier là, le fils qui a repris la propriété, c'est quelque chose là.
Surtout que c'est dans ses dernières récoltes aussi, il lui reste encore un petit peu de vigne.
Ouais, on va lui dire bonjour au papa alors. Allez,
merci.
On va aller voir la transmission.
La transmission, oui.
Ça vient depuis 2 ans?
Depuis 2 ans, oui, et ça va être pour moi la 3e génération.
3e génération de viticulteur.
On est arrivé dans les années 60.
Alors vous n'avez pas toujours fait du crément, j'imagine?
Non, on a commencé par des Beaujolais.
Ouais.
On faisait même que des Beaujolais rouges.
Ouais.
On a commencé à faire des Beaujolais blancs et des Bourgognes blancs.
Ouais.
Et après, on est parti sur le crément.
Pourquoi le crément? Pour diversifier la gamme?
Oui, pour diversifier, et puis c'était porteur surtout.
Ouais.
Le Beaujolais, on a eu quelques années un peu difficiles.
Mm-hmm.
Les gens ne reconnaissaient pas notre produit, qui était très bon.
Ouais.
Et maintenant, ils le reconnaissent. Donc, on est très, très contents. Ça a changé depuis quelques années. On a pu leur prouver qu'on faisait des vins qui étaient très, très bons, légers, qui se buvaient assez rapidement, mais qui étaient très légers. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'on est arrivé à remonter la pente et aussi avec nos rosés. Ben ça, c'est pour faire des crémants, par
contre. Jeunes vignes, hein, c'est ça.
C'est des jeunes vignes. Alors, on voit qu'elles ont craint un peu la sécheresse, mais le raisin est bien noir, le degré est suffisant, donc il n'y a pas de... Voilà. Et on est bien dans le degré des crémants, autour d'entre 10 et demi 11. Donc c'est tip-top pour,
c'est
nos,
top.
Pour nos vinificateurs.
Comme chaque nouvelle récolte, les vendanges 2023 seront le reflet du travail de femmes et d'hommes passionnés en symbiose parfaite entre connaissance d'un terroir et naissance d'un millésime aux saveurs du terroir Beaujolais. Une campagne d'avis de recherche qui inverse les rôles pour dénoncer l'abandon d'animaux après un bilan estival catastrophique, comme nous l'explique par téléphone Christophe Dumont-Richet, responsable du refuge SPA Lyon-Marraine.
En fait, cette nouvelle campagne, une nouvelle fois, la SPA essaie de jouer sur le ton de l'humour pour éviter la culpabilisation, mais quand même pour pointer du doigt un des problèmes qui entraînent par la suite des abandons. Ce problème-là, c'est le choix du chien ou du chat à la base qui ne paraît pas forcément adapté aux conditions de vie dans lesquelles on va le faire vivre par la suite. Donc l'idée, c'est de montrer des portraits, du coup, sous forme wanted, avec la photo de l'humain et que l'animal, c'est l'animal-là qui recherche son humain en pensant qu'il l'a perdu. Or, dans les textes, on comprend vite que les raisons pour lesquelles l'humain a fini par attacher le chien dans la forêt ou le perdre dans un parc. Donc du coup, c'est vraiment pour essayer une nouvelle fois de sensibiliser les gens au fait qu'il est important de procéder à une adoption responsable et de se laisser aussi guider par les professionnels sur place qui sont là pour essayer de faire en sorte de placer le meilleur animal dans les meilleures conditions possibles.
Cet été encore, les chiffres des abandons sont lourds de conséquences.
Globalement, on est toujours sur les mêmes tendances. La seule différence, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu moins d'abandons en termes de chiffres, mais qui se traduit pas vraiment sur le terrain. En fait, la différence, c'est que les refuges étaient vraiment très chargés à l'entrée de l'été et qu'en termes de prise en charge et de possibilité d'accueil, on était un petit peu plus limité que les années d'avant. Donc on a un petit peu moins d'adoption cet été, un petit peu moins de prise en charge. Je pense que les personnes ont aussi repris une vie un peu plus normale après le Covid et donc du coup les gens sont plus partis en vacances et avaient moins la tête à adopter pendant ces périodes d'été. Tout ça reprend un petit peu avec la rentrée, mais c'est sûr que les refuges restent très saturés et la situation est toujours très compliquée.
Les animaux vivent dans le drame de l'abandon sans le comprendre, les motifs de l'abandon.
Alors, pourquoi on abandonne son animal? Il y a vraiment énormément de raisons qui nous sont données. Ça peut être des problèmes de vie, des raisons financières. On sait que l'inflation, du coup, joue aussi énormément. Il y a une hausse des tarifications au niveau de la nourriture, de l'alimentation pour les animaux, mais aussi des frais vétérinaires. Il y a aussi le fait que les animaux demandent de plus en plus un besoin en éducation ou en suivi comportemental et que tout ça a un coût. Et après, il y a vraiment toujours les mêmes raisons un petit peu type allergie, séparation, naissance d'un enfant, ce genre de choses. Après l'été, la vraie problématique, c'est aussi, contrairement à ce qu'on a tendance de penser sur les vacances, c'est aussi énormément la reproduction intensive. C'est le moment où du coup les chattes notamment mettent beaucoup bas. Et c'est un moment où quand on est sollicité pour prendre des animaux en charge, c'est pas pour un chat qu'on nous appelle, c'est pour une chatte et sa portée. Donc ça fait 6 prises en charge, 6 familles à trouver, 6 formules de soins vétérinaires à opérer. Et tout ça, du coup, forcément, sature les refuges.
Avec plus de 16 000 animaux abandonnés dans les refuges de la SPA, sans compter ceux placés sur liste d'attente pour être recueillis, les refuges ont besoin de bénévoles.
C'est très compliqué pour tout le monde et je pense qu'on l'a tous vécu cet été, mais la canicule, quand on est en vacances au bord de la mer, c'est surmontable. Quand on est en train de travailler dans un refuge avec des animaux qui souffrent, du coup, aussi de la chaleur, c'est épuisant. C'est aussi épuisant physiquement que mentalement et du coup, les équipes, c'est compliqué pour elles aussi parce qu'un refuge en saturation, ça veut aussi dire plus d'animaux à s'occuper. Ça veut dire des animaux qui sont aussi moins en forme. C'est-à-dire que clairement, quand on met 15 chats dans une pièce là où normalement il devrait être 5, du coup, c'est des animaux qui sont psychologiquement plus fragiles et autres. Et donc du coup, il faut les épauler, il faut les aider. Et tout ça, ça demande aussi un gros investissement de la part des équipes.
Les aides sont également bienvenues.
Alors, il y a tout plein de façons d'aider la SPA, bien évidemment. Ça peut être déjà en faisant des dons, parce que vu qu'on est une association, clairement, on n'a pas de subvention de l'État. Et donc tous les dons sont importants pour prendre en charge les animaux. Ça peut être en amenant des couvertures, de la pâtée, des choses comme ça pour aider physiquement au sein du refuge. On peut se proposer en tant que bénévole éventuellement quand il y a des possibilités pour de nouveaux bénévoles d'intégrer le refuge. Et enfin, c'est vraiment pour... On a envie de sensibiliser les gens au fait que si on faisait stériliser son animal, on n'en serait pas forcément là par la suite. Et puis, si on réfléchit bien avant l'adoption d'un animal, du coup, et qu'on fait une vraie adoption responsable, le but, c'est que l'animal, il y reste pour la vie, en fait, et que ça soit une bonne chose et que l'animal ne revienne pas par la suite. Et ça, c'est super important. Dorénavant, depuis un an, la loi prévoit que les personnes qui viennent adopter les animaux aient signé et daté un document qui s'appelle un certificat d'engagement et de connaissance. Et c'est une obligation légale. Ça fait partie de l'adoption responsable aujourd'hui. Et donc j'invite toutes les personnes qui ont un projet mûr d'adoption à bien se munir de ce document, parce que c'est grâce à ce document-là qu'on pourra procéder à l'adoption le jour J.
7 jours de réflexion donc, avant d'accueillir un animal de compagnie. Vous devrez désormais signer un certificat d'engagement et de connaissance. Ce document vise à vous informer sur les besoins et les comportements de votre animal de campagne, le coût de son entretien et sur l'obligation d'enregistrer son identification. Le but est d'éviter les achats d'impulsion et les abandons qui s'en suivent parfois quelques mois plus tard.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.